Chapitre 33. Jane quitta le front de mer et reprit Wilshire Boulevard en direction de Westwood. La mission la plus compliquée de sa journée se trouvait derrière elle, mais une autre tâche l'attendait. La circulation était dense sous le soleil, les conducteurs agressifs et peu respectueux du code de la route. Les voitures avançaient par vagues au milieu des crissements de freins et des coups de klaxon. Sans raison, elle repensa au visage souriant et bienveillant de Berthold Tchenek, tel qu'elle avait pu le voir sur ses vidéos. Elle revit dans sa tête les souris qui avaient reçu des implants cérébraux, transformés en petits soldats défilant au son d'une musique militaire. L'opération de Palisades Park s'était parfaitement déroulée. Elle regrettait toutefois d'avoir dû se servir de son badge du FBI pour parvenir à ses fins. La gérante de l'hôtel, Paloma Windham, penserait sans doute qu'elle s'était laissée embobiner par un agent culotté, ou bien alors que le badge était faux. Dans un cas comme dans l'autre, elle ne manquerait pas de se plaindre auprès de l'antenne locale du bureau. Jane n'avait pas besoin d'avoir le FBI aux trousses, en plus des adversaires mystérieux qui la menaçaient. De tous les immeubles riverains du parc, cet hôtel était de loin le mieux placé pour lui permettre de transférer les documents des mallettes dans le grand sac poubelle. Elle avait hésité à se servir de la Ford Escape. Il lui aurait suffi de rester garé sur Arizona Avenue, près d'Ocean Boulevard, et d'attendre au volant que Nona lui apporte les attachés-cases en roller. Elle aurait couru le risque que les complices de Radburn suivent l'ancien sergent jusqu'à l'Escape et l'interceptent. Enchaîner les portes de l'hôtel lui avait permis de gagner un temps précieux. En outre, Jimmy et ses sbires auraient eu le temps de relever l'immatriculation de la voiture, avec le risque que les responsables de cette vague de suicides en prennent connaissance s'ils remontaient la piste jusqu'à Jimmy. Elle se serait vue contrainte d'abandonner l'Escape. Elle ne disposait pas des mêmes moyens que le gouvernement fédéral et ne pouvait se permettre de changer de voiture tous les quatre matins. Arrivée dans le quartier de Westwood, près du campus universitaire du CLA, Jane se mit en quête d'une maison dans laquelle elle avait été invitée à dîner un soir. Elle en avait oublié l'adresse exacte, mais elle se souviendrait de sa façade en la voyant. 10 minutes plus tard, elle trouva ce qu'elle cherchait. Une belle demeure géorgienne, majestueuse sans être immense, avec sa véranda à colonnade et sa façade de briques peintes en blanc. Elle se gara à 2 rues de là et rejoignit à pied le domicile du docteur Moshe Steinitz. Ce psychiatre respecté du CLA venait de prendre sa seconde retraite à l'âge de 80 ans. Il avait longtemps pratiqué en cabinet et animé de nombreux séminaires à l'école du FBI en Virginie, lorsqu'il ne prodiguait pas ses conseils aux équipes des unités 3 et 4 du département d'analyse du comportement quand celles-ci se trouvaient confrontées à certains tueurs en série. 3 ans plus tôt, mêlant déduction et intuition, Moshe avait réussi à décrypter les raisons qui poussaient un tueur de l'agglomération d'Atlanta à prélever les yeux de ses victimes. Sa théorie avait permis l'arrestation d'un désaxé, J. Jason Crutchfield, au moment où ce dernier s'apprêtait à tuer pour la 8e fois. Cette visite à Moshe représentait un risque limité pour Jane. Le vieil homme n'intervenait plus au FBI depuis qu'il avait pris sa retraite 1 an plus tôt. Sans être amie avec lui, Jane avait eu recours à ses lumières dans 3 de ses enquêtes et ils s'appréciaient mutuellement. Elle monta les marches du perron et sonna à la porte d'entrée. Le psychiatre ouvrit en personne, vêtu d'une chemise blanche, d'un nœud papillon bleu, d'un pantalon de costume noir et de Skechers bleu pâle avec des lacets orange. Elle l'avait toujours connu en souliers de ville. Porter des chaussures de sport était une concession à sa retraite. Il la dévisagea par-dessus ses lunettes d'un air agacé, sourcils froncés, avant d'afficher un grand sourire en la reconnaissant.
« Comme la vie est étrange !» déclara-t-il. « Est-ce vraiment la fille aux yeux bleus de ciel qui frappe à ma porte ?»«
Comment allez-vous, docteur Steinitz ?» Il l'entraîna à l'intérieur de la maison en lui prenant le bras.
« Je vais très bien, et encore mieux depuis qu'un bon vent vous a porté jusqu'à moi. »
« Je suis désolée de ne pas avoir appelé. »
« Vous auriez gâché la surprise, » répliqua Moshe en refermant la porte, et j'adore les surprises. Mais qu'avez-vous fait de vos longues boucles d'or ?
Je les ai coupées éteintes. Je voulais changer de tête. Avec son 1,65 m, il était légèrement plus petit que Jane, et son embonpoint accentuait la différence de taille. Il avait un regard triste et un sourire chaleureux, un visage empreint de gravité dont l'âge soulignait le charme.
« J'espère que je ne vous dérange pas, » dit-elle.
Il la regarda de la tête aux pieds, comme un aïeul qui s'étonne de la croissance soudaine d'une arrière-petite fille.
« Comme vous le savez, je suis en retraite. Je dispose donc de tout mon temps. Et les interruptions sont pour moi autant de bénédictions.
J'aurai besoin d'une heure de votre temps, pas davantage. Je souhaite recueillir votre avis sur une question qui me préoccupe.
Suivez-moi. Allons dans la cuisine. »
Elle lui emboîta le pas et passa devant le salon où trônait un Steinway sur lequel étaient posés, dans des cadres en argent, des portraits de Moshe et de sa femme, Anna, en compagnie de leurs enfants et petits-enfants. Jane n'avait pas connu Anna, morte 10 ans plus tôt, mais le soir où elle avait dîné là, Moshe l'avait suppliée de jouer du piano pour ses autres invités. Elle avait interprété la sonate au clair de lune de Beethoven et Anything Goes de Cole Porter. On l'avait interrogée sur ses parents et elle avait détourné la question, comme toujours en pareil cas, avant de préciser que sa mère avait encouragé ses talents musicaux. Elle avait senti peser sur elle le regard de Moshe. Elle le soupçonnait d'avoir deviné que sa discrétion au sujet de son père était dictée par des raisons peu avouables. Moshe se figea soudain et se retourna une main sur la bouche, comme s'il avait commis un faux pas.
« Avant de prendre ma retraite, la plupart de mes étudiantes s'offusquaient lorsque j'utilisais le mot « fille » au sujet d'une personne de sexe féminin de plus de 16 ans. On m'a expliqué qu'il fallait parler de femme. J'espère ne pas vous avoir offensé en prononçant le mot « fille » tout à l'heure, au moment d'ouvrir la porte.
Je me fiche du vocabulaire politiquement correct, Moshe. Être la fille aux yeux bleus de ciel me convient parfaitement.
Bien, bien, j'en suis ravie. Je vous avoue que l'une des raisons qui m'ont poussé à prendre ma retraite tient au comportement des étudiants d'aujourd'hui. Plus ils sont infantiles, plus ils se prennent au sérieux, et ils manquent trop souvent d'humour. »
Il l'entraîna dans la cuisine et lui proposa de s'asseoir sur l'une des chaises entourant la petite table.
« Du café, du thé, un soda, ou même un apéritif. Il est 5h moins le quart, presque l'heure légale pour un cocktail. »
Elle accepta sa proposition et il s'empressa de remplir 2 petits verres de Macallan d'Indarello avant de s'asseoir en face d'elle.
« J'ai été à la fois choqué et stupéfait d'apprendre la disparition de Nick. Une perte terrible. » « Je suis infiniment désolée pour vous, Jane. »
Comme il n'avait pas travaillé pour le bureau depuis 1 an, elle ne pensait pas qu'il était au courant. Elle se demanda s'il conservait des liens au sein du FBI et si elle avait commis une grave erreur en venant le trouver.